Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de pot.
Avec le Chouin et Coco D'Amico. Marco, comment ça va?
Le coco, il va bien, toi?
Le coco, très heureux que le
il
coco
aime pas ça. C'est pas rappelé.
Ben oui, il aime ça.
Il aime pas ça. Il y avait juste une personne qui avait le droit de m'appeler comme ça, Greg.
Non, non, tu le vois dans sa face. À chaque fois que tu dis coco, là...
C'est-tu vrai?
Ah non, il grince.
Marco, je m'excuse.
On verra bien.
C'est bon.
Il dit, je suis pas fâché, je suis déçu.
Ouais,
ça, c'est comme la pire affaire. Chouin!
Yes, sir! Comment ça va, tout le monde?
Ça va bien, toi?
Hey, merveilleusement bien.
Toi, je peux t'appeler Chouin, ouais. Je peux t'appeler Matt, je peux t'appeler Mathieu, je peux t'appeler Chewy, je peux t'appeler tout ça.
Tout ce qui est dans le respect, j'ai aucun problème avec ça.
Je tiens à le dire, là, Chouin, la semaine dernière, était un des seuls à dire que Yacoub Debèche allait être devant le filet mercredi contre les Flames et jeudi qu'on allait y aller avec Samuel Montembeau. Chapeau, Chouin.
Ben, des fois, tu lances une flèche, ça arrive directement sur le bullseye. Donc, lorsque ça arrive, on dit « Hey, je le savais ». Puis quand ça arrive, on dit « Ah, il y a des impondérables, hein, des fois dans la vie ».
Mais là, Chouin, toi, tu fais quoi pour les gardiens de but? Cette semaine, d'ailleurs, on demandera à Marco tout de suite après. Là. Mais Chouin, tu fais quoi? Est-ce que tu mets Dobèche ou Monty demain? Et samedi, tu fais quoi?
Hey, ça, c'est le gros sujet de débat. Hein, dans...
Ouais, non, inquiète-toi pas, on a pas mal d'autres sujets de débat actuellement aussi, nous autres. Là. Tu vas voir.
Ben écoute, Dobèche a joué le dernier match contre Vancouver. On ouais. a remporté la victoire. C'est le temps de Samuel de jouer. Il a joué contre le Kraken. Il a gagné en prolongation. C'est le temps à Sam de retrouver le filet. Donc, on est sur la route, on donne le match à Seattle à Samuel Montembeau. Et quelques jours plus tard, à la maison contre les Sénateurs d'Ottawa, grosse rivalité, samedi soir au Centre Bell, on retourne avec Samuel Montembeau pour finalement le rétablir comme un numéro un, comme il est supposé être. On va lui donner un match à Seattle, bon, le temps, on revient. Tout est beau, tout le monde est content, puis il n'y aura plus de controverse.
Donc, attends une minute, tu mets Monty... Malgré les succès de Yacoub Dobèche, tu mets Monty pour les deux matchs.
Oui, c'est... Tu sais, un entraîneur, sa fonction, son rôle, c'est de s'assurer que tous ses joueurs roulent à 100%. Puis que ce soit son joueur de première ligne, son joueur de quatrième ligne, dans ce cas-ci, son premier gardien de but, son deuxième gardien de but. Là, le rôle, c'est que Samuel Montembeau ait des parties, retrouve le filet comme il est supposé de l'avoir. Il joue au Centre Bell, il va jouer le dernier match sur la route, il va revenir au Centre Bell un samedi soir, ça sera merveilleux. Puis quelques jours plus tard, mais ça peut être Philadelphie là, à Yacoub Dobèche.
Mais attends, t'es 5-0 avec Dobèche devant le filet depuis le début de la saison, Chouin. T'as pas perdu une fois?
Non, exactement.
Mais pourquoi tu y vas pas avec le gardien, le gardien qui va le mieux en ce moment, et tu le mets devant le filet jusqu'à temps qu'il perde?
Ben, parce que les deux doivent jouer, ça on s'entend là-dessus. Qui a déjà fait ça, là, à part dans les séries éliminatoires, là, est-ce qu'on fait ça souvent de dire, ah, ben, on y va avec le gars qui ne perd pas, puis, tu sais, premièrement, ça, c'était très années 80, là, même, je vois peut-être 90 aussi. Le numéro un, ça reste Montembeau. Si on a à faire les séries et rentrer en série, faire du dommage, ça va être avec Samuel Montembeau. C'est, la réalité, c'est ça. Oui, Dobèche a du succès, je suis super content pour lui, c'est bon pour le Canadien en général. Maintenant, Samuel aussi, là, tu le mets dans d'autres situations. Il n'a pas été dans les mêmes genres de matchs que Dobèche. Je ne dis pas qu'il a été moins bon, meilleur, ainsi de suite. Sauf que la réalité, c'est ça. Est-ce qu'on a, pour moi, l'erreur, c'est de ne pas avoir mis Samuel Montembeau dans le filet à Calgary. Une équipe qui n'est pas capable de marquer de but. Tu le mets là, tu lui redonnes, on va dire, confiance. Par la suite, là, on est en business. Si tu veux y aller comme ça, ben, tu vas avec Dobèche à Edmonton. Ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais pas été partant pour ça.
Okay.
Mais pour moi, l'erreur, c'était ça, Calgary.
Marco?
Écoute, moi, j'irais quand même avec Montembeau contre le Kraken. Par contre, j'irais avec Dobèche contre les Sénateurs. Puis honnêtement, la seule raison que je dis ceci, c'est parce que si on regarde l'horaire, le calendrier du Canadien de Montréal, le mois de novembre est très chargé et ça finit avec un envolé vers le, le sud-ouest américain vers le Vendredi fou et l'Action de grâce américaine. Donc, tu te dois de t'assurer que dans ce frame-là, où est-ce que tu vas avoir deux matchs back-à-back en fin de novembre et début décembre, que tes deux gardiens sont au pic de leur forme. Donc, pour moi, le Kraken, pas dans la division du Canadien, pas dans la conférence du Canadien, c'est là où est-ce que tu peux te permettre l'opportunité de réessayer un Samuel Montembeault pour lui aider à revenir en confiance. Mais encore une fois, tout dépend de la performance. Je retournerai pareil avec Dobesch contre les Sénateurs d'Ottawa, qui était un match intradivisionnel, donc un match de 4 points. Oui, on parle de match de 4 points en octobre, mais on est là. Et ensuite, ça l'enchaîne avec les Flyers, les Devils, le Mammoth, qui est en feu en ce moment, les Kings, les Stars et les Bruins le 15 novembre. Donc, c'est déjà très chargé. La cote ou le niveau de qualité de l'opposition augmente. Donc, tu vas avoir besoin de tes deux gardiens en pleine confiance. Donc, je suis du même avis que Schwinn dans le contexte que tu as besoin de faire partie des gars. Puis c'est ça la responsabilité d'un coach. Mais oui, il faut aussi balancer ça avec qui est le meilleur sur la glace. Donc, moi, je sais que c'est plate, là, mais je suis toujours entre les deux quand il vient à ça. Je pense que ça va être 1-1 cette semaine-ci. Et le meilleur sera devant la cage contre les Flyers le 4 novembre.
C'est sûr que, tu sais, quand t'as deux matchs en une semaine comme ça, comme Schwinn l'a dit, tu veux pas qu'un de tes gardiens tombe froid, tu sais, parce qu'il a pas gardé les buts depuis trop longtemps. Tu veux garder. Donc, pour moi, il va y avoir un split entre les deux comme ça, parce que tu veux garder Dobesch dans des hautes performances et tu veux tenter de redonner la confiance à Montembeault également. Mais Marco, je te challenge sur ce que tu dis un peu et je comprends qu'on veut pas enlever le filet à Dobesch parce qu'il a gagné son dernier match, mais de ne pas avoir un samedi soir à la maison ton gardien numéro 1.
Ouais, mais est-ce que c'est encore... Ben, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore ton gardien numéro 1, mais je pense que tu as deux gardiens numéro 1 en ce moment. T'en as pas un nécessairement qui prend... Tu sais, c'est pour rien enlever à Samuel Montembeault, là, puis il a été dans une situation où, lors des dernières années, il a fait en sorte que le Canadien compétitionnait soir après soir, là. Mais moi, je suis...
Je comprends pas l'argument de samedi soir.
Au Centre Bell devant les partisans. Souvent...
Je m'en contrefiche que le gardien numéro 1 joue pas comme partant le samedi soir au Centre Bell en retournant d'un match d'un road trip de même. En plus, ils sont allés dans l'Ouest pendant une semaine et demie. C'est un match piège. C'est un match piège. Le match de retour d'un long séjour dans l'Ouest est toujours un match piège quand tu retournes à la maison. C'est une des choses que les joueurs en parlent assez souvent. Et ce que j'irais même à dire, c'est que le dernier match de samedi soir de Samuel Montembeault était contre les Rangers de New York. Et on sait très bien comment ça l'a fini, celle-ci. Donc, petit pas. Donne-y Seattle. Dobesch est en pleine confiance. Tu donnes Dobesch à samedi. Comme ça, les deux sont frais et tu peux avoir des décisions plus éclairées la semaine d'après en regardant les performances des deux gardiens de but. Que c'est un samedi soir, un lundi soir, je pense que les partisans vont être mieux ou plus contents d'avoir un gardien en confiance devant eux un samedi soir, vu que c'est des billets, disons, assez dispendieux, ces matchs optimum-là, que simplement y aller avec le joueur qui est vu comme le premier gardien de but. C'est plus ça, selon moi. Je me mets dans la tête de eux autres et aussi du coach. Là. C'est un win-win pour les deux bords, selon moi.
Schwinn, veux-tu réagir à ça?
Oui. Si on pose la question aux joueurs, on le fera pas, là. Si on pose la question à Nick Suzuki, c'est qui ton numéro 1, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire?
C'est sûr certain, qu'il la dit loyauté.
Ben oui, mais
la loyauté.
Et où? Oui, ben la loyauté est où? Toutes les games qu'il a joué pour le Canadien de Montréal versus Dobesch, que oui, il y a un bon départ, c'est correct, mais vous le savez, les gars, les statistiques, les mêmes matchs en fin de saison, après, mettons, là, on est à 75 matchs, les mêmes statistiques à 75 matchs, là, ça paraît même pas. Mais là, vu qu'on est au début, ben oui, ça paraît pas bien que Samuel, son efficacité est moins bonne, je comprends. Est-ce qu'il a joué les mêmes équipes? Absolument pas. Est-ce qu'il était dans le même contexte? Absolument pas. C'est circonstanciel. Tu mets Dobesch dans le filet contre Edmonton, pensez-vous vraiment qu'il y a une différence? Sur les buts qui s'est fait marquer, y avait-tu des mauvais buts? Il faut arrêter de voir que, ah oui, il se fait marquer beaucoup de buts, puis ah oui, l'efficacité est moins bonne. Je comprends ça, mais ce n'est pas du tout les mêmes affrontements, ce n'est pas les mêmes lancers.
OK.
Je ne peux pas être d'accord qu'il y a un débat de numéro un en ce moment à Montréal. Ça me dépasse.
Je suis du même avis. Je ne pense pas qu'il y a un débat de numéro un, mais je pense qu'on a déjà discuté du fait que la saison étant aussi condensée qu'elle l'est en étant une année des Olympiques, tu te dois de t'assurer que tu as deux gardiens en pleine confiance, en plein optimum. Et selon moi, je pense que tu couperais le vent en dessous de Dobesh de ne pas lui donner le samedi si tu donnes la chance à Montembeau d'avoir le mardi. C'est pour ça que je dis un peu de give and take. Oui, on va te donner le mardi. Si t'es le Canadien Montréal, tu le donnes Seattle. Mais on retourne à Dobesh en retournant à la maison, le match trap, comme j'aime dire.
Ouais, effectivement.
Et ensuite, tu peux recommencer le 1-1-1-1 rendu la semaine d'après parce que c'est là où ce que tu risques de.
Ouais,
tu,
on repart sur un rythme.
C'est 12 matchs.
On repart sur un rythme plus dans le mardi, jeudi, samedi et le reste.
C'est ça.
On verra ce qui va arriver dans tout ça. C'est un bon débat. Maintenant, les gars, Nick Suzuki est le joueur le plus utile aux Canadiens de Montréal après 10 matchs dans la saison. Marco.
Mais non.
Pardon?
Et pour moi, non. Pas pour l'instant. Le plus utile, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je crois que si tu regardes ces statistiques, tout le monde va dire « Ben voyons donc, il joue bien défensivement, il y a tant de points que ci, que ça. » J'ai pas tant aimé le jeu à Nick Suzuki à 5 contre 5 de façon offensive sur son trio. Je dirais même que pour moi, la bougie d'allumage sur ce trio-là, à date, se trouve à être Cole Caulfield à mon égard. Je pense que Cole Caulfield, pour moi, est le MVP offensif du Canadien de Montréal en ce moment. Puis je pense qu'on peut le voir avec sa récolte de points et la façon qu'il joue et comment son jeu est complet. Mais pour moi, puis ça va sonner fanboy en titi, mais c'est la première paire du Canadien de Montréal en défensive qui, pour moi, est le MVP en ce moment. Et Mike Matheson, au top de cette liste-là, avec le nombre de minutes qu'il joue et l'efficacité qu'il démontre sur la glace, en ce moment, si tu enlèves Mike Matheson de la formation du Canadien de Montréal, je ne sais pas si on a autant de points. Puis on peut dire la même chose de Nick Suzuki, c'est pour ça que j'ai mis un à côté de l'autre, puis j'ai eu un peu de difficulté à dire ça. Mais je crois que Nick Suzuki a un autre niveau offensif qu'il peut atteindre, qu'on a déjà vu. Et je sais que le monde va me dire « Oui, mais c'est le meilleur marqueur depuis les Quatre Nations l'année passée. » Je pense que ça a plus à voir avec le nombre de points qu'il y a eu l'année passée après les Quatre Nations que cette saison en ce moment. Il connaît un très bon départ offensivement, mais à 5 contre 5, ce trio-là n'est pas encore où ce qu'elle était l'année passée. Et une fois qu'il arrive à ce moment-là, parce qu'on le sait, Nick est en train de vraiment porter plus attention à son jeu défensif pour impressionner aux Olympiques en ce moment, le moment que l'offensive à 5 contre 5 arrive, là, tu vas non seulement parler du MVP du Canadien de Montréal, mais tu vas parler d'un joueur qui va être dans la discussion du Selke et potentiellement aussi du Hart, s'il est capable de vraiment pousser ça à un autre niveau. Mais en ce moment, je crois que le joueur qui en vaut le plus, puis ça donne que c'est une année de contrat en ce moment, Mike Matheson joue du hockey absolument hallucinant.
Je pense qu'il y a beaucoup de bons choix chez le Canadien, mais pour apporter un petit bémol à ce que tu as dit, Marco, c'est vrai qu'à 5 contre 5, c'est pas là qu'on voit la grande production offensive de Nick Suzuki, mais il a été sa patinoire pour deux buts de l'autre équipe à 5 contre 5. Alors, tu sais, quand tu regardes défensivement à quel point il se débrouille depuis le début de la saison, moi, c'est mon choix pour le MVP parce que à 5 contre 5, l'adversaire contre le Canadien de Montréal et ce trio-là en particulier, il n'y a rien qui fonctionne. T'sais, le Canadien est en mesure de neutraliser l'adversaire. Souvent, on passe plus de temps en zone offensive.
Mais une des raisons pourquoi un gars comme exemple, Patrice Bergeron, était aussi aimé par tout le monde dans le hockey, c'était non seulement est-ce qu'il était capable de contrer et limiter les buts contre, mais il était aussi la bougie d'allumage pour les buts pauvres. Et je pense qu'à 5 contre 5, c'était vraiment ça son élément. C'est à ce moment-là où on a vraiment commencé à se dire ouais. OK, c'est beaucoup plus qu'un centre en défensif. Fait. Et c'est la même chose que je parle avec Nick Suzuki. Il est là. C'est carrément genre un pourcentage de différence entre les deux. Mais pour qu'il soit vraiment le MVP, une petite coche de plus à 5 contre 5.
Chouin?
Patrice Bergeron marquait 25-30 buts par année. Fait que, tu sais, je pense qu'on est dans le même beat là, pour Suzuki qui a manqué là, quand même de finition. Il a pogné des poteaux.
Ouais.
Et écoute, offensivement, il a été très là. Je peux pas dire qu'il n'est pas là. Vous avez pas mal utilisé mon point. En fait, FX, là, défensivement, il s'est fait marquer deux buts quand il est sur la patinoire. Donc, là, regarde les statistiques à la Patrice Bergeron comme ça. Puis n'importe qui, là, il est à la portée d'un Selke. Il faut que tu sois bon offensivement, il faut que tu sois bon défensivement. Il est tout un leader. Il fait du travail sur sa ligne que Caulfield ne va pas nécessairement faire non plus. Il est tout le temps en support défensif. Il est ailleurs défensivement, on va se le dire, là, avec son bâton. Il me fait penser, je le dis souvent, il me fait penser à Barkov, comment il est capable là, d'aller crocheter ouais. la rondelle. Il est lourd sur son bâton. Tu sais, hard on puck, là, heavy on puck, ouais, lui, ouais. C'est l'enfer. Donc, tu sais, pour moi, là, des deux côtés de la rondelle, il génère de l'offensive. Pas comme il aurait pu en faire plus. Il a raté des occasions, oui. Sauf qu'à l'avantage numérique, à 5 contre 5, il est bon avec la rondelle. Puis défensivement, il est sensationnel. Donc, pour moi, c'est l'MVP. Mais je suis pas contre, Marco, d'avoir dit ta première paire de défenseurs. J'y ai pensé, moi aussi. J'étais juste content que tu n'aies pas dit Dobesh.
On reviendra sur Dobesh à la fin de votre intervention,
ça fait réagir,
les gars.
Hein? Même ouais. sur la messagerie texte et sur YouTube, ça fait énormément réagir.
Ouais, d'un bord et de l'autre, là, Schwinn a fait sauter la messagerie texte. D'un bord et de l'autre. Hey, je suis tellement d'accord. Voyons, Schwinn, qu'est-ce que tu dis là? Les deux, là, c'est un après l'autre. C'est incroyable les réactions. Puis on aime ça que vous réagissiez autant à nos débats. Mais là, on en a un solide pour vous autres. Tout le monde va pouvoir répondre, y compris vous, sa messagerie texte. La question est fort simple, au retour de la pause. C'est qui le meilleur joueur dans la Ligue nationale? Là, parlez-moi pas de McDavid. Là, c'est qui le joueur le meilleur sur la planète?
Ici, ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de Puck.
OK. 514-790-0919 sur la messagerie texte. Et le nom qui sort le plus, c'est un nom que j'aime beaucoup. Messieurs, Schwinn, Marco D'Amico. Qui est le meilleur joueur de la Ligue nationale le 27 octobre, après un huitième de la saison? Question qu'on aime se poser, et il n'y a pas de consensus ici à l'interne. Schwinn, on commence avec toi.
Et même moi, écoute, on a eu la discussion tantôt, j'ai regardé ça, t'sais. C'est pas évident. J'ai deux choix. J'avais Jack Eichel puis Nathan MacKinnon. J'ai fini avec Nathan MacKinnon. Pourquoi? Parce que Jack Eichel, il a eu deux games de 4 points dans des blowouts. Nathan MacKinnon, seulement deux matchs sans points. J'ai regardé plusieurs de ses matchs déjà cette saison. Il est encore très dominant. C'est de loin le MVP de son équipe. Oui, McCarr, il connaît encore une excellente saison, là, mais il est excellent. Ceux autres sont sur une série de défaites. Il aimerait bien avoir leur gardien en forme. Là, qui
Mackenzie Blackwood, oh, c'est Scott Wedgwood. Ouais. C'est un duo de bois.
Oui, c'est, on touche du bois avec ça. Puis, mais c'est, pour moi, le Nathan MacKinnon, c'est un des MVP. Ça aurait pu être débattu sur plusieurs angles, ça. Je suis sûr que Marco va apporter d'autres points pour un autre joueur.
C'est sûr. Marco?
Ouais, mais pour moi, c'est toujours intéressant parce que si on parle d'aujourd'hui en ce moment et qu'est-ce qui s'est passé durant la saison, je ne sais pas s'il y a un joueur qui joue mieux aujourd'hui en ce moment que Macklin Celebrini avec les Sharks de San Jose.
Incroyable.
Aujourd'hui, je sais que, tu sais, on en regarde la saison puis tu te dis des blowouts, tu sais, le match contre les Sharks de San Jose a vraiment élevé. Sa production, excuse-moi, contre les Rangers de New York a vraiment augmenté sa production offensive, mais c'est à cause qu'il a carrément take over ce match-là. Et ce que j'aime de lui, encore une fois, c'est difficile d'être un joueur de centre, de jouer de cette façon, mais on disait la même chose de Jack Eichel la semaine passée, quand lui avait commencé tout feu, tout flamme dans ses premiers trois matchs. Donc, c'est un peu la même chose quand on parle de Celebrini, mais moi, en ce moment, ce que je vois de Celebrini, c'est en flèche montante. Et d'ailleurs, je trouve que présentement, c'est lui et une troupe de jeunes qui sont autour de lui, plus Tyler Toffoli, qui sont autour de lui, qui sont en train de figurer leur identité, mais lui est au-delà de la donnée. Tandis que quand on parle d'un gars comme MacKinnon, il y a McCarr, il y a Martin Nietzsche, il y a quelqu'un qui joue derrière lui, qui fait un assez bon job en Brock Nelson en ce moment. Tu sais, c'est une équipe prétendante à la Coupe. L'Avalanche du Colorado et Nate Dogg étant à la tête de tout ça. Mais quand je regarde Celebrini, l'attention au détail, le fait que c'est un joueur qui est utilisé dans toutes les situations à 5 contre 5, le port offensif, le fait qu'il y a juste 19 ans encore, pour moi, c'est
moi, c'est ça qui me jette à terre, Marco. Il y a 19 ans.
Attends une seconde. je me jette à terre aussi parce que c'est exactement la même chose. C'est, j'en reviens juste pas. Je ne le faisais pas parce que si tu planchais le bois, ça aurait fait mal. Mais honnêtement, pour moi, Celebrini, quand je le regarde jouer, c'est les détails qui me fascinent avec ce joueur-là. Puis rendu au point où ce que tu le compares à un gars comme Connor Bedard et tu te demandes lequel de ses premiers choix au total est vraiment le meilleur entre les deux en ce moment, parce que la façon que je vois les deux jouer, je pense que Connor Bedard connaît une bien meilleure saison cette année versus l'année passée. Mais Macklin Celebrini, mesdames et messieurs, c'est en ligne pour être un des meilleurs jeunes centres. La comparaison avec Sidney Crosby durant son année de repêchage se tient. Je dis pas que ça va être le meilleur joueur de sa génération, mais je dis simplement que les détails sont là pour qu'il soit un joueur dominant dès maintenant, et il l'est. Et c'est ça qui est intéressant, déjà à sa deuxième année dans la Ligue nationale.
FX?
Non, mais je suis d'accord avec Marco. Moi, c'est parce que je regarde aussi l'attaque des Sharks de San Jose. T'sais, on s'entend que c'est une jeune attaque. Ceux qui bénéficient le plus de la prestation de Macklin Celebrini en ce début de saison, c'est Will Smith notamment, et William Eklund, qui a un très, très bon début de saison avec les Sharks. Mais le premier trio des Sharks, Will Smith, Macklin Celebrini et Tyler Toffoli. Là, je veux dire, Eichel avec les Golden Knights a quand même un peu plus d'éléments offensifs. Mark Stone s'est blessé, mais t'as quand même Mitch Marner qui n'a pas été très bon lors du dernier match, mais t'as quand même un peu plus...
Aussi.
Pavel Dorofeyev, t'as plus d'éléments clés offensivement que Macklin Celebrini, qui est pas mal seul dans son camp.
Et qui est très bon défensivement aussi ouais. Celebrini, là, qui, tu sais, malgré tout. Mais là, et c'est pas la question, est-ce que c'est le joueur le plus utile à son équipe? C'est qui est le meilleur joueur présentement dans
l'équipe?
C'est
sûr, c'est sûr.
Parce que ce serait dur de faire un cas pour les Sharks, qui, encore une fois, connaissent pas un gros début de saison non plus globalement comme équipe, mais quand même, sont beaucoup plus spectaculaires et menés par le jeune Celebrini. Moi aussi, le gars, il m'impressionne.
Puis t'as pas de mauvaise réponse, là. Je regarde sur la messagerie texte, il y en a beaucoup qui nous parlent même de Sidney Crosby. Il y en a plusieurs qui parlent de Cale Makar avec l'Avalanche du Colorado. Schwinn parlait de McKinnon.
Cale Makar est incroyable.
Ouais,
l'équipe a perdu, Schwinn l'a dit, là, l'équipe a perdu les 4 matchs en prolongation. Il est plus 11. Il a 11 points en 10 matchs, Cale Makar. C'est un défenseur. C'est le joueur le plus utilisé dans toute la Ligue nationale.
Et il y a déjà 3 buts pour un défenseur en ce début de saison.
Cale Makar, est-ce que... Là, je vous pose la question parce que Matthew Schaefer, puis ça sent bien là, avec le Trophy Calder, tout ça. Est-ce qu'il y a un défenseur à un moment donné qu'on va pouvoir dire, OK, c'est vraiment un rival à Cale Makar? Marco, t'as réagi. On va faire réagir Schwinn après. Là, mais dire, OK, lui, on peut vraiment dire là, qu'il est dans la même ligue que Cale Makar. Là.
Ben, Matthew Schaefer, la façon qu'il joue, Cale Makar faisait quoi au même âge? Il jouait pour UMass dans la NCAA. Pendant 2 ans. Donc, c'est pas nécessairement la même chose. On compare pas nécessairement la même chose. Cale Makar a eu une progression absolument fulgurante de son année de 20 ans à 21 ans. Et on a vu qu'est-ce que ça l'a donné. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir dire, y a-t-il un défenseur qui va rivaliser ça? Mais, écoute, c'est une bonne guerre en ce moment. T'as lui, t'as Quinn Hughes, t'as Zach Werenski pour l'instant. Là, en ce moment, t'as Lane Hudson, qui est le deuxième meilleur marqueur des défenseurs de la Ligue nationale. Et Matthew Schaefer étant, selon moi, le défenseur pris au premier tour le plus talentueux depuis Dahlin. Dahlin, s'il jouait sur un club qui s'appelait pas Buffalo, j'aurais hâte de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire.
Ben oui.
Et aussi, l'année prochaine, on parle de Landon Dupont comme étant le premier choix au total qui, lui, impressionne beaucoup à Everett. Il cherche encore son premier but cette saison, mais sa saison de 15 ans, 60 points en 64 matchs, c'est peut-être lui vraiment qui serait l'autre option, parce que vraiment, on parle d'un joueur en Cale Makar qui est générationnel. Je m'excuse, je n'aime pas utiliser ce terme-là souvent, mais ça l'est. Je sais même pas à quoi ressemblerait la brigade défensive canadienne sans lui, quand on parle des quatre nations ou des Olympiques.
Dans son cas... Force est d'admettre que c'est le cas. Là. C'est pas comme ah oui, c'est Bedard qui est générationnel. Ah non, c'est Celebrini. Ah non, c'est McKenna. Non. Dans le cas de Makar, semble-t-il que c'est vraiment ça. Schwinn, veux-tu ajouter quelque chose en quelques secondes avant que je te demande qui remporte le Trophy Calder?
Ben, tu voulais trouver une comparaison pour Makar. Dans la Ligue, il n'y en a pas présentement à son niveau. Puis je parle d'accord avec Marco que Schaefer pourra probablement être le plus proche qui va se rapprocher là, de Makar, de la façon qu'il patine, qu'il voit le jeu. Tu sais, Boyum est super intéressant en ce moment. Il va être quoi dans son développement? Mais je pense qu'il n'est pas proche de Scheffler.
À qui tu donnes un Calder, mon Chouin, en une minute?
Écoute, ben là, les partisans du Canadien vont être contents parce que je vais y aller avec des bigons. Ouais, ça va peut-être être une affaire garracher des roches parce qu'on parle différemment des autres. Mais écoute, moi, c'est Demidov. Offensivement, on l'a vu, là, c'est une bougie d'allumage. On l'a changé l'avantage numérique. Il méritait d'être sur le 1. J'ai aimé ce que Martin Saint-Louis a dit, là, un peu de la façon qu'il avait géré Hudson l'année passée. C'est difficile. C'est difficile pour un défenseur de remporter. On l'a vu, là, Bédard contre Faber. Faber, pour moi, aurait pas mal dû gagner. Puis, tu sais, on l'a donné là, à l'attaquant. Ça allait de soi. On dirait que c'était comme évident qu'elle allait l'avoir dès le début de la saison. Mais Demidov, je te dirais qu'il produit assez. Il est assez important pour son équipe pour avoir une très, très haute considération.
Marco?
Il va me faire taper dessus, les amis, mais c'est pour l'instant. Puis je préfère en disant pour l'instant parce que on parlait pas de pommes et de pommes, c'était plus pommes et oranges. Mais pour moi, c'est Matthew Schaefer. Je pense qu'avec la production offensive, je pense qu'avec le temps de jeu, l'importance de sa position, la façon qu'il est capable de jouer, même défensivement, parce qu'on s'entend que c'est pas juste les points pour un défenseur. Pour moi, c'est le gars qui est devant. Maintenant, est-ce que je crois comme certains que c'est déjà débat fini puis le trophée lui appartient? Absolument pas. C'est pour ça que j'ajoute un petit bémol. Si les minutes de Ivan Demidov commencent à ressembler à un joueur digne de mention de son talent, donc si je veux dire un joueur qui va jouer 17, 16, 17, 18 minutes par match sur la première vague de l'avantage numérique, là, je pense que je vais être d'accord avec Schwinn là-dessus parce que pour moi, c'est pas le talent qui manque avec Ivan Demidov, c'est l'opportunité. Et je pense que c'est là où ce que, si tu veux vraiment que ça soit sur une base égale, où ce qu'on va vraiment regarder deux recrues qui se donnent premier défenseur des Islanders de New York, premier ou allié de possible franchise dans le cas de Ivan Demidov, mais il faut l'utilisation soit similaire dans leur position. C'est ça que j'attends de voir. Je veux voir Ivan Demidov produire ou se faire donner des minutes de premier trio.
Effectivement.
Pas nécessairement jouer sur le premier trio, mais des minutes de premier trio pour ensuite pouvoir voir l'exécution. Parce que c'est là où ça va commencer à changer. Exact. C'est là où ce que les match-ups vont être différents. C'est là où ce que la couverture va être différente. C'est là où ce que l'attente va être différente. Puis on le voit avec Schaefer aussi. Petite baisse de régime offensivement, mais le jeu à 5 contre 5, absolument foudroyant.
Là, on a tout enregistré vos réponses pour la fin de la saison, voir si en date du 27 octobre, vous aviez raison. Inquiétez-vous pas. On a tout ça pour vous autres.
C'est pour ça que j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je savais. Ça, c'est vivre en dessous d'une mer italienne que tu lises tout contre toi.
Les gars, moi, si j'ai pas raison, là, vous savez ce que je vais dire. Je me rappelle pas d'avoir dit ça. Non, c'est pas moi. C'est l'intelligence artificielle
exact, qui parlait à ma place. Ça. Ah, c'est bon, ça, Chouin. On va mettre ça dans le bac à excuses. Hey, les gars, vous avez été exceptionnels encore une fois. Merci beaucoup, puis on se reparle très bientôt.
Bonne journée à tout le monde.
Bonne journée à vous autres.